d'Angers avec le poète Manuel Joseph, en images balistiques à Bruxelles avec le commissaire d'exposition Guillaume Desanges et en peinture mitraillée avec le galeriste Benoît Porcher, poésie et rafale donc.
Poésie et ainsi de suite par Manu Farine.
Et c'est jusqu'à minuit. Guillaume Desanges, Manuel Joseph, Benoît Porcher, bonsoir.
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 Bonsoir. Benoît Porcher, vous êtes à l'origine de la galerie Sémiose à Paris, créée il y a une petite dizaine d'années.
À peine.
Parmi les artistes que vous représentez, Françoise Petrovitch, Hippolyte Nguyen, Abraham Poincheval, Présence Panchounette, Pierrot Gilardi, soit une famille offensive qui en passe par le corps, par le réel, et discute souvent la hiérarchie des cultures et la question du goût, mauvais goût compris. Ce qui n'est pas sans relation avec l'artiste et poète entre vos murs jusqu'au 23 juillet, William Burroughs, en écho à l'exposition Beat Generation à Beaubourg, j'imagine, dont vous exposez une partie de la production plastique, pour l'essentiel réalisée durant les 15 dernières années de la vie du poète américain disparu en 1997. Manuel Joseph, vous êtes écrivain, poète, ça a une importance, ça n'a pas d'importance?
J'ai longtemps préféré poète. Je ne sais pas comment expliquer. Si, poète très bien, écrivain, je...
Écrivain moins bien?
Moins bien, littérateur encore moins bien. Poète, je maintiens.
D'un genre pas moins offensif, en tout cas, poète balistique, dirait peut-être Guillaume Desanges. Première publication chez POL en 94, Heroes are Heroes are Heroes, suivi de La Tête au Carré, qui inaugure une position et une langue hantée par le politique. Et ça passe notamment par une pratique radicale du montage, par lequel vous feriez comme entrer ou déborder le monde tel qu'il déraille dans le texte. À propos de montage, Guillaume Desanges, vous êtes commissaire d'exposition, notamment, mais aussi critique, théoricien, performeur, conférencier. À vos heures, on vous donne notamment une histoire de la performance en 20 minutes, d'un genre nomade, avec quelques escales notables, notamment au laboratoire d'Aubervilliers, au plateau Fraquil-de-France à Paris, et depuis 2013, à la Verrerie à Bruxelles, où vous inaugurez un cycle d'expositions sous le terme offensif, lui aussi, de poésie balistique.
Né, non, rien. Pierre, brique, fixe, ferme en fil. Silence, né, claque. Toc, droite, gauche, toc, rien. Glisse, une heure. Toc, roule, toc, claque, silence, tic, si peu, toc. Claque, route, brame. La pierre, j'arrive, souffle, bouton, nez, pierre, nez. Sur l'aile, rue, ni palissade, silence, rue de pierre au ciment. 2 heures. Pour mon hoc, mon distress. Comme hoc, et copule, monte, hop, non. Né, nul, et me clousse. Oust, ping, ding. 3 heures. Rossure de pierre, aïe. Arrête, griffe de marbre. Sur marbre et de pierre et sur marbre et sur ponce et de grès qui te scie, cube d'ombre et te sue, ce qui te scie et sur ponce, oui. Non. Frange de cils. Face, face. Et mur de plomb. Face à face, ni nul, non. Poutrelle, pile de pierre. Rousse, flanquée, fichée, grise. Et face. If, face. Face et face, if, blanc. Mécanique.
La voix chuchotée, performée du poète Bernard Hetzig, extrait de Partition V, une lecture donnée à Budapest en 1994. Hetzig, l'un des bras armés de l'exposition Poésie balistique, dont vous signez le commissariat à la Verrière, à Bruxelles. Une exposition collective manifeste qui vient inaugurer un cycle de monographies à venir. 16 artistes, parmi lesquels Thomas Hirschhorn, Guillaume Leblond, Jean-Luc Moulin, Marcel Brotars. L'ensemble tenu, rythmé, lié, armé peut-être par 3 poètes, ou en tout cas par les textes exposés de 3 poètes, Bernard Hetzig, Christophe Tarkos et le Belge Marc Inzinghel. Quelle idée de la poésie a présidé justement au choix de ce trio-là?
Alors c'est vrai que c'était pas évident parce que c'est une exposition qui part de la poésie et qui peut-être y vient, mais qui est principalement une exposition d'art contemporain avec des artistes visuels. Un art visuel qui m'intéresse depuis mes débuts en tant que commissaire, qui serait plutôt de l'ordre du, on va dire, de ce qu'on appelle l'art conceptuel, l'art minimal, quelque chose qui, a priori, et de manière d'ailleurs assez fausse, se serait séparé de la poésie, aurait privilégié le rationnel, les sciences, voilà,
le programme,
voilà, qui fait plus référence aux mathématiques peut-être qu'à ce qu'on appelait la poésie. Et moi, j'ai essayé à travers cette exposition de regarder ces formes-là, de les re-regarder, en tout cas, les actualiser avec un regard poétique. Et j'ai essayé de définir ce que pouvait être cette poésie qui était diffusée par ces œuvres. J'ai appelé ça poésie balistique. Et à partir du moment où j'avais trouvé ce nom, c'est-à-dire que l'oxymore même, qui est le titre de l'exposition et qui
on va y revenir, bien sûr,
un programme même plus qu'une thématique, m'a amené à choisir ces poètes. Et ces trois poètes, ils ont ce que moi j'appellerais une portée balistique, à la fois une économie de moyens très forte. Je pense que c'est ce qui pourrait les rassembler. Quelque chose qui est de l'ordre d'un maximum d'effets avec un minimum de moyens. Ça, j'aime beaucoup. Peut-être même une certaine sécheresse. En tout cas, quelque chose d'extrêmement précis. Des poètes qui utilisent aussi la répétition, par exemple. Mais étonnamment, paradoxalement, une répétition qui n'a jamais rien de superflu. Qui est une répétition minimale, je dirais presque. Qui est presque de l'ordre de l'insistance. Et puis, je crois qu'on vient de l'entendre avec la voix là, de Bernard Heitzig, la manière dont il parle. C'est vrai que la balistique, donc, c'est l'art de l'étude, de la projection des corps. Il y a ce rapport aussi avec quelque chose de très, on dirait presque un ton comme ça, très de salve, comme ça. Et je crois qu'il y a dans la langue de Christophe Tarkos, dans la langue de Bernard Heitzig et dans les poésies plutôt graphiques, on va dire pour le coup, de Mark Isingle, ce même rapport avec quelque chose qui touche directement et qui va à un but de manière directe, même si finalement parfois on n'a pas vu d'où partait le coup.
Justement sur cette question d'impact, par exemple Guillaume Desanges, quand vous installez dès l'entrée une feuille arrachée de partition V de Bernard Heitzig, tout à côté d'un monochrome, en tout cas de ce qui apparaît comme étant un monochrome et qui est infiniment plus complexe que ce qu'on imagine, réalisé à partir de deux plaques de verre qui enserrent une colle, en fait, qui est injectée entre ces deux plaques de verre et qui est une colle injectée d'encre, de façon à produire une surface qui est très lisse, très mate et qui est presque une surface paradoxale, c'est-à-dire qui est à la fois une surface extrêmement profonde et une surface réfléchissante, en tout cas qui absorberait au maximum et qui réfléchirait en même temps. Qu'est-ce que vous mettez en place d'entrée, puisque c'est là-dessus, sur cette association-là, qu'on bute dès qu'on entre dans l'espace d'exposition, qu'est-ce que vous mettez en place avec ces deux pièces?
Ce qui m'intéressait en fait dans ce rapport...
C'est une œuvre de Scott Lyall, pardon.
C'est une œuvre de l'artiste américain Scott Lyall. Ce qui m'intéressait, c'était la manière dont, d'une certaine manière, la poésie ou l'art minimal comme celui de Scott Lyall, qui est un monochrome, qui est par ailleurs un monochrome dans lequel on peut se plonger un peu, c'est-à-dire un monochrome qui a une profondeur. Néanmoins, c'est la question des œuvres qui doivent masquer pour montrer. C'est-à-dire qu'à un moment, il me semblait que la forme dans l'art conceptuel et l'art minimal, qui est une forme qu'on imaginait a priori comme la résultante d'un processus logique, en tout cas, qui pouvait amener logiquement à une certaine forme, en fait, finalement, la forme finale, l'objet qu'on a devant nous, était un objet qui masquait quelque chose, qui masquait ce programme, et qu'en tant que critique d'art et commissaire d'exposition, j'ai quand même pas mal travaillé sur justement les process qui sont pour moi indispensables, mais je m'apercevais que finalement dans ma relation qui restait à l'œuvre d'art, ça restait irrésolu, c'est-à-dire que le processus n'allait pas jusqu'au bout, et ce que je prenais, c'était plus un processus, quelque chose qui avait été brisé par une forme, et cette forme vient masquer le processus et vient donner à la fois un vertige qui est celui de peut-être de l'impénétrable, celui de ce qu'on ne peut pas pénétrer, ce qu'on ne pourra pas comprendre. Et pas comprendre, ça veut dire aussi pas prendre. Cette partie-là vient se mettre entre le regardeur et l'artiste, d'une certaine manière. Et j'aime bien penser l'idée de poésie un petit peu comme ce qui viendrait... peut-être c'est la partie du signal. Je parle de signal parce que, pour moi, l'art, il y a quand même une adresse, une direction. Il n'y a pas de sens, mais il y a une direction. Et que ce signal-là, ce que j'appellerais poésie, c'est ce qui échappe à ce signal. Mais c'est la partie du signal qui échappe à la fois au récepteur. Parce que moi, en tant que...
Pourquoi il n'y aurait pas d'adresse en poésie?
Pardon?
Pourquoi il n'y aurait pas d'adresse en poésie?
Non, je fais des liens entre les deux. Il y a une adresse aussi en poésie, hein, absolument. Mais dans la poésie que j'aime, c'est-à-dire qu'à la fois, c'est la partie qui échappe au récepteur, mais qui échappe aussi à l'émetteur. C'est-à-dire que voilà, il y a cette partie-là qui est cette zone qu'on peut partager, mais qui est une zone d'incompréhension. Et ces poètes que j'ai choisis, et ce début de parler, de montrer un poème de Bernard Heitzig à côté de ce monochrome, il y avait cette manière aussi de commencer à dire Maintenant, on n'est plus dans le régime du discours.
On va y revenir aussi à justement cette question-là de ce qu'il faut prendre. Est-ce que finalement le spectateur a vraiment besoin d'avoir connaissance du protocole, du procès, etc. On va évidemment y revenir. Tarkos et Aitzik, et même Henri Chopin, que vous montrez aussi au cours de l'exposition, sont de ceux, entre autres, qui ont mis le poème debout. En tout cas, c'est particulièrement vrai pour Aitzik. Que le poème éclate alors comme une bulle, écrit Aitzik dans Partition V, en ouverture de l'exposition. Or, vous, vous choisissez non pas de les faire entendre. L'exposition est relativement muette, à une exception près, mais sinon elle est même particulièrement muette. Donc vous choisissez non pas de les faire entendre, mais de les évoquer par le texte, sous forme de pages arrachées, qui sont fixées au mur par un scotch. Vous désignez d'ailleurs l'extrait à lire sur la page par des petits crochets au crayon de papier. Pourquoi fallait-il les exposer comme images, ces poètes-là, Guillaume Desanges?
Il est certain que les œuvres que je présente dans l'exposition, pour moi, ce sont des formes de poésie. En tout cas, elles me touchent de la même manière que me touche la poésie. Et peut-être que la poésie que je montre est aussi une manière des formes d'images. Je les montre quand même à lire. Elles sont quand même à lire. L'idée, c'est que je les ai mis à distance du regard pour qu'elles puissent être lues. La question, c'était aussi la question que ce sont c'est des choses qui m'ont, on va dire... accompagné pendant la préparation de cette exposition.
Les lectures, vous voulez dire ?
Oui, ces lectures-là m'ont accompagné, m'ont encouragé. Parce que c'était pas facile, c'est un sujet qui n'était pas facile pour vous dire la vérité. Quand je préparais l'exposition, j'en parlais, je la présentais à des gens autour de moi, des artistes, et j'avais beaucoup de mal à me faire comprendre, pour le coup. Et je me rendais compte que je me disais, mais vers où je vais, en fait? Parce que c'est une exposition qui travaille aussi sur la notion d'incompréhension, qui est une exposition relativement incompréhensible elle-même. Je regardais la liste des artistes, et je me disais, mais en fait, si moi-même, en tant que critique d'art, je recevais un dossier de presse avec une liste d'artistes comme celle-ci, j'aurais vraiment du mal à faire un lien. Et en fait, la lecture de ces poètes m'a beaucoup encouragé, mais qui était moins, c'était m'encourager de manière indicible ou non discursive, c'est-à-dire qu'en effet, je sentais en lisant ces poésies qu'il y avait des liens entre des œuvres que je pouvais montrer, qui sont des œuvres d'art contemporain, d'art conceptuel, d'art minimal, de pratiques processuelles, avec des formes de poésie qui étaient celles de Isingel, Tarkos et Bernard Aitzik, et je verrais qu'en lisant, je prenais des crochets comme ça dans les notes et qui faisaient des liens avec ces œuvres. Et finalement, en dernier instant, la présence de la poésie dans l'exposition, que j'avais envisagée de manière sonore au début, a pris une forme un geste assez simple et assez basique, qui était en effet d'arracher ces pages et de les confronter aux œuvres d'art, en essayant qu'elles soient pas illustratives, mais en tout cas qu'elles viennent montrer des processus ou des tensions de travail qui pourraient être
par exemple
un poème de Christophe Tarkos sur la question du noir, par exemple, ou au début de l'exposition il y a un poème de Christophe Tarkos qui parle de la poésie en disant « Le poète prépare la pensée difficile ». Voilà. Ça, je trouvais que c'était une très belle phrase pour moi et qui m'intéressait, parce que souvent la pensée difficile, on l'associe pas tellement à la poésie, justement. On l'associe plutôt à justement les sciences, la recherche, je sais pas, le programme, etc. Et là, il y avait de dire « Non, en fait, c'est la poésie qui prépare la pensée difficile », simplement parce qu'à un moment, dans la pensée, ce que de la pensée difficile, qui est celle de l'art pour moi, qui reste quelque chose de problématique, qui reste quelque chose d'irrésolu, quelque chose d'extrêmement complexe et de finalement toujours impénétrable, eh bien pour moi, à un moment, j'ai besoin de la poésie comme un relais du discours. C'est-à-dire qu'à un moment, le discours n'opère plus, le discours n'est plus efficient. Et étonnamment, la poésie devient efficiente. Mais pour continuer à exprimer dans un prolongement de la même idée. Pour la petite histoire, j'ai remarqué que, en fait, j'avais écrit des textes, beaucoup, parce que j'ai une pratique d'écriture critique, et je suis assez habitué à ça. J'ai une certaine, aujourd'hui, j'ai une certaine expérience et une certaine aisance dans, en tout cas, l'écriture, on va dire, théorico-communicationnelle. Et quand j'avais écrit sur cette exposition, c'était impossible de la partager avec l'écriture critique. Et je me suis, un jour, en nuit, j'étais très, je me suis réveillé en me disant, je devrais peut-être faire non pas un poème, mais en tout cas emprunter la forme du poème, ce qui a donné cette introduction, qui est ce sorte de poème autour de la question de la poésie balistique. Et je vous assure que soudain, quand je présentais aux personnes ce texte, d'un seul coup, ça devenait extrêmement clair.
C'est un texte où vous écrivez « Poésie pour l'intuition, balistique par l'intention, balistique parce qu'il y a un programme, poétique parce que cela déraille, poésie par la distance, balistique par le choc, poétique parce qu'insaisissable, balistique parce que saisissant, balistique mathématique, poésie cryptique, balistique comme trajectoire, poésie comme territoire. » Je ne vais peut-être pas le lire en entier, voilà. Mais ça s'achève sur poétique par le langage, balistique par l'image. On va y revenir, bien sûr, mais tout de suite, on écoute l'un des trois poètes, dont celui dont vous venez tout justement de parler, Guillaume Desanges.
Rêver n'est pas penser. Quand je rêve, je vois défiler des images dans ma tête. Quand je rêve, je ne pense pas. Penser n'est pas rêver. Rêver, c'est voir des images qui défilent dans la tête. Penser, c'est avoir des images qui défilent dans la tête. Des images dont on ne peut pas dire à la suite ce qu'ils vont être. C'est-à-dire que les images défilent et on ne peut pas les prévoir. On ne peut pas savoir à l'avance ce que vont être les images. Ce sont des images qui défilent et on ne peut pas savoir ce qui va se passer. J'ai la tête dans un sac, j'ai la tête dans un trou et tout ça passe. Et ça passe les images et je continue et j'essaye de suivre le fond du trou. Et j'essaye de suivre le fond du sac. Et tout ce qui va suivre est incompréhensible et est insuivable et est imprévisible. Tout ce qui va suivre comme image, c'est un défilement continu d'images. C'est regarder la télévision. Penser, c'est regarder la télévision. Les nuages passent, les nuages nagent, les nuages gonflent. Les nuages se serrent, les nuages boursouflent, les nuages soufflent, les nuages grandissent, les nuages se lèvent. Je suis dans les nuages, j'ai la tête dans les nuages et je vois passer des images et une foultitude d'images. Et ce sont des images qui n'ont pas de suite les unes avec les autres, qui n'ont pas de rationalité, qui n'ont pas de logique entre elles. C'est un chemin, je suis sur un chemin, j'ai la tête au fond du trou et je suis le fond du trou et je suis le fond du sac. Et je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas quel va être le fond, quelle va être la suite, quelle va être la continuité. Je continue, j'ai la tête dans le sac et je continue.
La voix de Christophe Tarkos, hein, c'était pour une improvisation dans le cadre du numéro 20 de la revue Java. On est en 2000. Qu'est-ce que Tarkos vous a rendu possible, Guillaume Desanges, que ce soit dans l'exposition Poésie balistique, et peut-être même plus généralement?
Là, on entend un petit peu dans cette improvisation de Tarkos, il y a ce trouble mélange entre des intentions et des intuitions. On sent bien qu'il y a un programme. On sent bien que chez Christophe Tarkos, il y a, je crois, le lien aussi avec la partition musicale, avec quelque chose qui est de l'ordre aussi de l'algorithme scientifique. Enfin, il y a tout ça qui a nourri sa pratique. C'est une poésie qui va dans une sorte aussi d'efficacité, de fulgurance. Un rapport aussi, alors c'est là où j'emploie le mot balistique, hein, un rapport aussi avec un certain type d'impact immédiat. Et ça, on le sent dans la manière dont Tarkos lit, mais aussi écrit. C'est-à-dire que c'est aussi des choses qu'on entend. Cette poésie-là, c'est une poésie qu'on entend.
Il lit pas, il dit.
Pardon ?
Là, dans ce qu'on a entendu, il ne lit pas.
Il ne dit pas, en plus, oui. Il dit, voilà. Il y a cette manière de dire. Là, c'est une improvisation en plus. Mais en lisant les livres de Christophe Tarkos, j'entends des salves, j'entends une sorte de rythme, une sorte de rythme urgent. La forme d'urgence de Tarkos, elle est aussi peut-être liée à son histoire. On sait que voilà, il est aussi à la fin. Enfin, ça c'est quelque chose aussi qu'à la fin de sa vie, juste avant qu'il décède. Je crois que d'après ce que j'ai vu, il était déjà malade à l'époque. Chez Manuel, je trouve qu'il y a une urgence qui est liée à la situation contemporaine, une relation extrêmement, je dirais presque une ouverte affectivement à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, de manière plus politique, en ce qui concerne Manuel. Mais il y a cette question de l'urgence aussi, qui est très intéressante, parce que l'urgence, elle m'intéresse aussi dans l'art, en fait, dans les formes de l'art, qui sont des formes non pas forcément réactives, parce qu'elles sont actives, mais qui sont des formes d'urgence et de nécessité. Et étonnamment, par rapport à cette question de la poésie, justement, la poésie de Christophe Tarkos ou celle de Manuel Joseph me paraissent plutôt dans un régime de l'urgence et de la nécessité que dans celle qu'on pourrait penser du plaisir superflu que pourrait être la poésie qui vient enchanter le monde, quoi.
Un, deux, trois. Un soldat salue un artiste.
Parmi Guillaume des Anges, les œuvres de l'exposition, une pièce de Guillaume Leblond, qui sont en fait de longues lames ou lamelles de verre qui sont adossées à la verticale sur le mur, en tout cas posées à la verticale sur le mur, dont la taille est calculée pour être exactement à la limite de la rupture. Il y a aussi des lettres tapées à la machine à écrire sur des pans de coton par l'artiste cubaine Essie, ou même une reproduction exacte du poème « Un coup de dé, jamais n'aboliera le hasard » de Mallarmé, à ceci près que chaque mot y est recouvert d'encre, ce qui rend évidemment le poème parfaitement illisible, et révèle, à contrario, l'ensemble de sa structure. Et sur la couverture du livre, en lieu et place du mot poème, le mot image, justement, et en lieu et place du poète, le nom de l'artiste, Marcel Brotars. C'est une pièce de 1969. Qu'est-ce qui en ferait, comme vous le suggérez dans votre texte d'introduction, l'influence secrète et majeure de l'exposition ?
D'abord, c'est le premier cycle d'exposition que j'avais organisé à La Verrière était un petit peu sous la figure de Marcel Duchamp. En termes de, j'avais travaillé sur les questions de relation à la matière, entre justement l'art conceptuel et la matière, sous l'angle de l'artisanat dévoyé. Et sur ce cycle-là, donc poésie balistique, c'est vrai que j'ai pensé à Marcel Brotars depuis le début. D'abord parce qu'évidemment c'est en Belgique et Marcel Brotars, c'est voilà une figure importante de l'art belge. Et puis Marcel Brotars, qui est un artiste plasticien, connu comme étant plasticien, évidemment lui fait le lien, fait le mouvement entre la poésie et les arts visuels, puisqu'il a démarré sa carrière en tant que poète. Et à un moment, il a arrêté la poésie, de manière symptomatique d'ailleurs, et par un geste qui était celui de prendre son dernier recueil de poèmes et de l'enserrer je crois que c'est du plâtre, dans cette magnifique œuvre qu'on peut voir dans le musée de Gand, le SMAC. Et donc Marcel Brotars, il fait d'abord ce lien entre art visuel et poésie. Donc évidemment, pour moi, dans l'idée de poésie, dans ce cycle d'exposition, donc qui, à travers l'art contemporain, essaie d'éclairer une certaine forme de poésie. Et puis Marcel Brotars, c'est aussi celui qui, je dirais, pour le coup, il abandonne pas complètement la poésie, en fait. C'est-à-dire qu'il continue à travailler son art, un art dit conceptuel, c'est-à-dire un art dit de programme et d'intention très forte, avec, contrairement peut-être pour le coup à Marcel Duchamp, là, assumer une forme de poésie, plus directement en tout cas que chez Marcel Duchamp, qui est tout simplement celle aussi de travailler avec très fortement avec cette idée d'intuition, avec cette idée aussi de rapport presque au romantisme un peu dans son travail. Et donc je dirais que là pour le coup, si on a quand je dis on, c'est personne et c'est tout le monde, c'est un ennemi invisible, on va dire. Mais enfin, quand l'histoire de l'art a pu penser que l'art conceptuel pouvait être une sorte d'alternative justement à la poésie ou de tourner le dos à la poésie, je pense que quelqu'un comme un artiste comme Marcel Brotars nous montre vraiment comment, pour lui, à la base de l'art conceptuel qu'il a pratiqué, il y a la poésie et notamment celle de Stéphane Mallarmé, dont il reprend le poème Un coup de dé, en vraiment soulignant l'aspect peut-être justement algorithmique ou programmatique, puisque finalement on a la structure graphique du poème que tout le monde qui lit, enfin les personnes qui lisent ce poème de Mallarmé connaissent, et que précisément il va sous les mots, en fait, c'est-à-dire qu'il efface les mots pour garder la structure, montrant comment sa structure aussi est presque, on entend presque le poème à feuilleter ces petits bâtons de noir sur fond blanc de la page.
Cette question de l'illisibilité, pardon, justement, elle est à l'œuvre dans plusieurs des pièces de l'exposition. Je pense au livre de Isidoro Valcarcel Medina, qui est un artiste conceptuel espagnol qui travaille depuis la fin des années 60 à peu près, qui est un livre à pages plastiques transparentes, imprimées recto-verso, donc parfaitement illisible pour le coup. Je pense aussi aux textes disloqués, aux phrases décomposées, recomposées, démembrées, recombinées de Mark Inzinghel. Qu'est-ce qui se joue pour vous, justement, Guillaume des Anges, dans cette question d'illisibilité en art comme en poésie ?
En fait, cette exposition, encore une fois, c'est pas qu'une exposition, c'est presque un programme de travail pour les prochaines années, puisque ça ouvre un cycle qui va durer 3 ans. Vient aussi de quelque chose qui est presque biographique, c'est que ma relation à l'art a changé. Ma pratique par rapport à l'art contemporain n'a pas changé, mais ma relation à l'art a changé. Pour la petite anecdote, il y a quelques années, je suis allé faire 5 sessions avec une psychanalyste dans le but de préparer une conférence sur ma relation peut-être réprimée, honteuse, problématique à l'art contemporain, à essayer d'en savoir un peu plus clair. Et au cours de ces 5 séances, il y a eu un moment où j'ai prononcé la phrase l'important pour moi, c'est la question du nombre. Du nombre, parce que je parlais du nombre de visiteurs des expositions. Et à ce moment-là, la psychanalyste m'a arrêté brutalement la séance. Et comme elle était lacanienne, je savais que parfois, on arrête les séances au moment où quelque chose de signifiant a été dit de manière inconsciente. Et je suis revenu à la dernière séance en lui disant, j'ai compris que ce qui m'intéressait, c'était pas la question du nombre, c'est la question d'une ombre. Et que peut-être que finalement, je m'apercevais que l'art que je continuais à aimer, finalement, était celui qui continuait à échapper à ma compréhension, et que plus j'avançais dans l'art, plus j'en connaissais un petit peu justement les processus, les manières de faire, ce qui amenait, et que finalement, la part la plus importante, c'était la part d'ombre, et que le rôle du commissaire d'exposition, peut-être, ou du critique d'art, n'était pas d'éclairer ou de remplir ce trou, c'est au contraire de le préserver, de prolonger l'incompréhension, de le protéger, voire de le créer, éventuellement, quand il n'était pas là. Et du coup, c'est vrai que ces œuvres-là, illisibles, en tout cas, manifestent pour moi, de manière peut-être encore plus métaphorique, ce rapport entre le programme et son illisibilité.
Est-ce que ce moment de lucidité fulgurant, est-ce que ça a modifié quelque chose, Guillaume Desanges, pour vous, par la suite, dans votre façon de penser ou de concevoir une exposition ?
Oui. Ça a vraiment modifié, encore, je le répète encore une fois, ma relation à mon travail. Et cette exposition, Poésie balistique, est une exposition qui est, je dirais, nourrie de cette mini-révolution copernicienne que j'ai pu avoir sur le fait que finalement, la question n'était pas d'être compris, la question n'était pas d'être lisible, mais la question, c'était de... En fait, l'incompréhensibilité de l'art contemporain et celle de la poésie ne sont pas un problème, mais sont une solution. Sont une solution parce que c'est continuer quelque chose qu'on a envie d'exprimer, mais par d'autres moyens. Et parce qu'à un moment, le discours, les mots, le discours, le langage articulé n'est plus forcément celui qui permet de rendre, de toucher là où on a envie de toucher. Et voilà, et cette part-là, maintenant, avant, j'essayais de la réduire. Et aujourd'hui, j'essaye plus de la réduire, oui. J'essaye plutôt de plonger dedans avec le spectateur s'il accepte de me suivre.
À propos de balistique, Guillaume Desanges, vous avez choisi d'entendre une voix, ou plutôt plusieurs voix, et ces voix, ce sont celles-ci.
La jolie fille, le vilain garçon, le revolver, le gentil monsieur, la méchante femme.
Scénario de François Truffaut.
La mort. La petite américaine. Le voleur d'auto. Le concerto pour clarinette. La police.
Supervision de Claude Chabrol.
La pin-up. Le romancier. La boniche. Humphrey Bogart, Marseille, mon ami Gabi, Picasso, le photographe italien, les anarchistes, le magnétophone.
Vous écoutez France Culture, Poésie et ainsi de suite, par Manou Farine.
Un film de Jean-Luc Godard.
La tendresse. L'aventure, le mensonge, l'amour, les Champs-Élysées, la peur.
Avec Jean Seberg et Jean-Paul Belmondo.
Le diable au corps, Dieu réfifit chez les hommes. Et Dieu créa la femme. Scarface. À bout de souffle.
Le meilleur film actuel.
La bande-annonce d'À bout de souffle, hein, de Godard, 1960. Et vous m'avez... Ah,
il y a un
résumé. Joseph veut dire quelque chose.
Oui, je lève la main, ce qui est stupide. Là, il y a un résumé parfait pour moi. J'ai entendu le romancier, la béniche. Vous m'aviez posé la question tout à l'heure, poète, écrivain, et je vous ai répondu poète. Écrivain, ça me gêne parce qu'on dérive vers le roman. Et le roman actuel, pour moi, oui, c'est... il est servile.
C'est-à-dire ?
Ça passe par quoi, cette servilité ? C'est un diktat. C'est ce que je pense. Donc parparfois, je me permets de le dire.
Oui, mais faut me dire
la forme roman me gêne actuellement.
Pour quelle raison ?
Bah, elle m'a toujours gêné, en fait. C'est trop long. C'est cette distinction que j'opère, moi. Je n'aime pas les romans, vraiment pas. Je suis poète.
Ça veut dire que pour vous, seule la poésie
pourrait l'être ?
Là,
j'ai d'ores et déjà entendu chez Godard, il y a longtemps, le romancier, la boniche. J'ai un extrême respect pour les bonnes.
Et beaucoup moins pour le roman et le romancier. On a bien compris. Guillaume Desanges, vous m'aviez promis d'évoquer cette bande-annonce en termes balistiques. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ben, en fait, il y a plusieurs choses dans cette bande-annonce qui m'intéresse par rapport à la poésie. C'est d'abord sa forme, c'est-à-dire que là on a une forme qui est sous la forme de la liste, comme ça, qui est aussi quelque chose qui a été beaucoup, je crois, utilisé par les poètes qui nous intéressent et qu'on aime, c'est-à-dire cette sorte de fausse neutralité de la liste et de la réduction d'un film d'existence, de vie, de trajectoire, justement à comme ça une liste de mots. Et donc il y a ce rapport à la liste qui, pour moi, c'est quasiment un poème, enfin c'est ce qu'on vient d'entendre, et pour moi comme une forme de poème, même s'il n'en a pas vraiment l'ambition. Par ailleurs, on connaît les liens entre Jean-Luc Godard, le politique et la poésie. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont liées à ça. C'est quelqu'un qui aborde, même à l'époque de la période la plus politique, celle de Dziga-Vertov et cette période un peu post-68, c'est quand même quelqu'un qui, à un moment, est toujours tiraillé entre la question de l'efficience politique et la question, justement, bourgeoise aussi de la poésie. Et il utilise, il ne peut pas s'empêcher d'utiliser quand même la poésie. Parce qu'à un moment, je crois qu'elle lui sert aussi. Et puis, évidemment, en termes balistiques, pour le coup, ce film À bout de souffle, Jean-Luc Godard en général, cette question de l'urgence. À bout de souffle, c'est un film urgent. Pour préparer l'émission, j'ai réécouté le film, en fait, À bout de souffle. Pas en entier, mais je me disais, en fait, tout le film pourrait être un poème. Enfin, j'avais choisi d'écouter cette bande-annonce, mais la voix même, le soliloque, à bout de souffle, vraiment littéralement, d'urgence de Jean-Paul Belmondo, et quand même quelque chose qui me rappelle, moi, cette poésie à bout de souffle, qui pourrait presque être celle aussi de Bernard Heitzig, dans sa manière aussi de parler. Et puis, il y a le film aussi comme une trajectoire. Là, pour le coup, enfin, ça commence pratiquement, le film À bout de souffle commence par un coup de revolver, et on a l'impression que ce coup de revolver s'arrête jamais, c'est-à-dire que tout, à partir de là, tout est lancé, et ce film n'arrête pas de parler de vitesse tout le temps. Enfin, Jean-Paul Belmondo dit comment ce film, je crois que une de ses premières phrases, c'est « Allez, fonce, Alphonse ». Ensuite, quand il est en voiture, c'est, comme disait le vieux père Bugatti, une voiture, c'est fait pour avancer, pas pour s'arrêter. Enfin, il y a cette idée de la trajectoire, et dès qu'on s'arrête, c'est pour mourir, en fait. C'est pour s'arrêter, quoi. C'est pour s'arrêter définitivement. Voilà, donc toutes ces raisons-là, et puis ce rapport à l'urgence, je repense aussi à ce très beau film de Jean-Luc Godard qui s'appelle La lettre à Freddy Buache, qui est un court-métrage où cette scène magnifique où Jean-Luc Godard s'arrête sur le bord de la route pour filmer, est arrêté par la police qui vient lui dire qu'il faut bouger parce que c'est la bande d'arrêt d'urgence. Et Jean-Luc Godard, avec sa voix toujours, et je lui dis, mais oui, il y a urgence, justement. Il y a urgence, là, il y a la lumière, il y a tout, le cinéma va mourir, enfin, etc. Donc, il y a urgence. Et on voit bien comment, c'est pas que des mots, c'est pas que des phrases, c'est aussi une forme qui mène à des formes d'action cinématographique, politique, poétique, etc. Mais qui utilise la poésie un peu comme, parce qu'à un moment, c'est le seul moyen de prendre, en effet, d'aborder un certain type de réalité.
Manuel Joseph, je voulais juste revenir à cette affirmation préalable à propos du roman. Non pas que je veuille nécessairement en défendre le genre ou la forme, mais simplement pour en savoir un petit peu plus. Après tout, vous disiez qu'il pouvait y avoir un malentendu justement autour de la poésie dite bourgeoise ou boursouflée. Ça pourrait très bien être le cas pour le roman. Donc je voulais juste en savoir un petit peu plus sur ce qui véritablement pouvait disqualifier cette forme-là en dehors de sa longueur. Et au fond, qu'est-ce qui vous fait dire que le seul lieu de la transgression serait la poésie ?
Elle est irréductible. Je vois pas quelle autre épithète ajouter. On ne peut pas l'enrober, on ne peut pas l'englober, on peut difficilement en parler. Et si on parle de médias traditionnels, je ne suis pas en train de vous évoquer, on ne parle pas de poésie. On l'effleure ou elle est réduite à une préciosité.
Pour quelle raison, à votre avis ?
Je sais pas, moi. Pour quelle raison ? Parce qu'elle est irréductible, parce qu'elle est gênante. Je suis pas sûr qu'elle soit gênante. C'est un bloc, elle est compacte. Je répète, c'est pas mon rôle de...
C'est quoi votre rôle ?
Plutôt de lire et d'écrire, de dire... Mon rôle n'est pas de penser. Et mon rôle n'est pas de penser la poésie. Mais je suis tout à fait Guillaume.
Alors peut-être voulez-vous bien nous faire lecture, Manuel Joseph ?
Oui, mais alors j'hésite.
Vous avez le droit.
Je vais dire un vieux texte, donc de 2010, dont le titre est « La sécurité des personnes et des biens ». Si je lis, c'est parce qu'on parlait de confiscation. Le titre, là, « La sécurité des personnes et des biens », que j'ai bien évidemment emprunté à des textes de loi, tout simplement, il a une tendance à devenir « La sécurité des biens et des personnes », et actuellement, j'entends « La préservation des biens ». On a une tendance à zapper les personnes, et ça me dérange. C'était un préambule. Les droits de la victime ont été bafoués, d'abord parce qu'il n'y aura pas d'enfant. Les droits de l'ordre ont été bafoués. Lundi, d'abord, si j'arrive à faire une chose avec les mains propres dans l'appartement, ça va bien, c'est ok. Ensuite, si j'arrive à me laver encore les mains et à faire encore un truc avec les mains propres dans mon appartement, comme ranger le classeur impôt à sa place et ne pas oublier le classeur en couleur que j'ai choisi d'acheter en couleur pour mieux les retrouver et ranger bien les factures de la même couleur, c'est comme une devinette facile, même pour les enfants. Mais même moi, je ne le retrouve pas tout le temps et j'avais trouvé cela une idée bien. Mais quand je ne le retrouve pas, et parce que ça va très bien d'abord, mais moi maintenant, parce que j'ai pensé au classeur en couleur quand je ne le retrouve plus. Je suis un peu essoufflé, j'ai chaud, je transpire, je m'assieds, j'allume une cigarette pour souffler un peu. Mais je ne me sens pas mieux, je respire fort et je ne vais pas bien. J'ai eu la peur du dentiste ce matin lundi. J'étais en sueur et je n'ai pas pu m'y rendre. Il faut que je sorte de l'appartement et que je marche un peu. Aujourd'hui, les chèques devraient avoir été crédités. On est lundi, mais comme je les ai déposés vendredi et pas directement à mon agence, ça se trouve, je vais sortir pour rien, mais je ne peux pas rester plus longtemps enfermé dans mon appartement. J'étouffe. Je tremble un peu et je vais vers la porte, mais je fais demi-tour et je rallume une cigarette. Je ne me sens pas très bien, mais je prends le portefeuille et ma carte qui est à l'intérieur et je marche jusqu'à la porte d'entrée. M'arrête et décide de ne pas éteindre la radio. La porte de la deuxième chambre est bien fermée. Je souffle un peu avant de sortir, vérifie que j'ai bien le patch magnétique et les clés, me retourne pour jeter un œil et vérifier que tout est à sa place. Un des objets de ce travail porte sur la pratique de la dénomination de l'ennemi dans le cadre des doctrines militaires qui émergent à l'occasion de la guerre froide. Une de leurs principales caractéristiques a été de penser la gestion efficace de l'action coactive, coercitive et d'annihilation, non pas sur un ennemi provenant uniquement de l'extérieur des frontières, mais sur un ennemi agissant depuis l'intérieur du pays, émergeant du territoire national lui-même ou de l'Empire, émanant depuis ses sols et socles natals et y pratiquant des formes de guerre larvées singulières au sein même de ce berceau nodal et nucléaire dans son acception non militaire. Un ennemi maîtrisant couramment la langue. Un ennemi assurément versé du creuset historique, culturel, social et politique. Un ennemi enraciné puisque enfanté dans la patrie.
Merci. Guillaume Desanges, poésie balistique.
Moi, je dirais oui, mais c'est difficile devant un poète de, de définir et de mettre
Bah, il va falloir le faire, parce que lui, il va pas le faire.
Balistique, en tout cas, une lecture de Manuel Joseph, d'ailleurs, tout comme une exposition de quelqu'un qui est un grand complice et quelqu'un avec qui Manuel a beaucoup travaillé, qui est l'artiste suisse Thomas Hirschhorn. Je pense que ce sont des formes d'expression, en tout cas, ou d'adresse, qui veulent quand même toucher, créer de l'impact, en assumant aussi les dommages collatéraux potentiels.
C'est-à-dire
Les dommages collatéraux, ça veut dire que la poésie de Manuel ou l'art de Thomas Hirschhorn, ça peut créer énormément de malentendus, ça peut créer énormément de violence aussi, enfin de pour le coup d'incompréhension. Oui.
Balistique, pour moi, n'évacue pas, ne met pas de côté, n'élimine pas l'émotion, cette chose un peu. Oui, alors là, peut-être bourgeoise et précieuse, je sais pas.
Non, pour le coup, l'émotion, pour moi, elle est pas bourgeoise et précieuse, pour le coup.
Elle est également balistique, elle est également urgente.
Exactement. Moi, je pense que l'émotion, elle peut être balistique. C'est un petit peu l'idée de, justement, précisément, de cette exposition. C'est presque un retour à des formes, peut-être d'émotion, je sais pas, ou d'affect. Je sais pas comment on peut parler, mais en tout cas, il y a une part d'affect.
Mais puisque tu parles un peu de Thomas.
Manuel Joseph.
Quand on évoque.
Thomas Hirschhorn.
Oui, Thomas Hirschhorn, pardon. Quand on parle de balistique ou de projectile, on aurait peut-être tendance à oublier, omettre, vouloir voir les trous que ça provoque dans les corps humains. Et ça, c'est la dernière exposition de Thomas Hirschhorn, les pixels collages. Mmh.
La dernière exposition de Thomas Hirschhorn, qui a, je crois, suscité beaucoup de critiques, beaucoup de réactions, était une exposition de collages, des très grands collages, qui montraient de manière un collage vraiment dans tension des images de mode prises dans des magazines, des publicités ou des images de mode, avec des images de guerre, mais plutôt les résultats d'images de guerre et des images qu'on ne montre pas. D'habitude, c'est-à-dire, c'est pas des images de guerre telles que la guerre, justement, comme Manuel le dit, la confiscation du discours, il y a aussi confiscation de ce qui est montré. Et là, ce sont des résultats de la guerre, des corps déchiquetés, des trous dans les corps, des choses qui sont pratiquement insoutenables au regard. En tout cas, voilà, évidemment, c'est montrer l'immontrable d'une certaine manière, sachant que les collages sont faits avec une technique de pixels qui fait un lien entre les deux. Et entre les deux, il y a justement un peu la présence de l'art minimal, ce qui renvoie aussi à l'idée de poésie balistique. Thomas Hirschhorn, par ailleurs, est dans l'exposition Poésie balistique avec des œuvres
avec des collages justement
qui montrent, mais qui sont très liés en fait, qui montrent aussi des images de véhicules militaires en lien assez brutal comme ça avec des formes d'art minimal, des carrés, des ronds, avec des couleurs primaires. Et donc, il y a chez Thomas Hirschhorn cette question aussi de l'art qui vient entre les deux choses, entre la dureté du monde et puis une sorte de monde idéal. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne refuse pas la cruauté du monde. Je pense que c'est le lien aussi avec une certaine forme de poésie, telle que la pratique Manuel Joseph. Il refuse pas la cruauté du monde. Et comme Manuel parle aussi de ce dont on ne parle pas ou de ce dont on ne peut pas parler, Thomas Hirschhorn montre des images qu'on a décidé de ne pas montrer. Et toute cette question aussi, c'était des images immontrables. C'est-à-dire que ce sont des images qui sont censurées. Et cette question du pixel, c'est aussi la question qu'aujourd'hui, le pixel, il est fait pour cacher une partie des images. On floute et que là, Thomas Hirschhorn ne floute pas à l'endroit où on floute d'habitude.
Première fois.
Oh les mains.
On n'a rien fait.
Allez. Par ici. En quatrième vitesse.
À propos de collage Manuel Joseph, je pense notamment dans La tête au carré qui était paru en 2011 hein, chez POL, je crois. Chaque page faisait aussi image. Il y avait aussi des confrontations, des frottements, des effets de collage, des effets de montage en tout cas, de juxtaposition, hein, de conflit. Au bord de l'illisibilité parfois, il était question parfois de cinéma, mais il pouvait être aussi question de Gaza, il y avait aussi une sorte de narration un peu disloquée, des images, des schémas insérés dans le corps du texte, des encadrements. la pratique du montage, hein, c'est pour vous d'abord une question politique plus que syntaxique ou formelle ou poétique?
Les quatre, je dirais. Mais c'est intéressant par rapport à l'exposition que j'ai pas vue de
l'exposition
organisée
de,
par Benoît Porcher
de Burroughs, dont on va parler dans une minute.
On va dire que fin des années 90, il y a eu comme on a décidé, presque défini, une école du néo-cut-up à la française, dont je faisais partie, je crois, puis cette terminologie a été assez vite abandonnée. À l'époque, il y avait Pierre Alféri, Olivier Cadiot et beaucoup d'autres qui étaient censés faire du cut-up. Et moi, cut-up, j'aime pas, mais montage, oui, j'aime bien le terme collage en écriture, mais je ne le pratique pas plastiquement. On en parlait également tout à l'heure. J'aime les livres. J'aime cette forme obsolète, désuète, papier. Si je veux dire le contact.
Quand vous dites néo-cut-up, Manuel Joseph,
c'est parce que je crois l'avoir entendu dans la bouche de Prigent.
Donc pas dans la vôtre, mais c'est une dette que vous reconnaissez, c'est-à-dire c'est quelque chose qui vous intéressait, vous étiez lecteur, quels ont été les...
Non,
les...
justement, je n'étais pas lecteur.
Lecteur de rien. Pas de lecteur de poésie,
si,
en tout
lecteur,
cas.
Oui, mais pas de poésie et pas spécialement de
Burroughs. Lecteur d'affreux romans, donc.
Oui, j'ai fait ça et je continue d'aller. Je lisais pas Gelsin, je lisais pas Ginsberg, je lisais pas Burroughs. Mais pour moi, c'était une évidence qu'il fallait juxtaposer des choses, mais les rapprocher jusqu'au moment où ça provoquait quelque chose. Une émotion. Mais une émotion poétique. Donc oui, formelle et formaliste aussi. Je crois qu'il faut encore qu'il y ait des déflagrations. C'est très bien sur papier, c'est pas beau sur les corps.
Je trouve ça intéressant quand tu parles de formel, le collage
non,
formel.
Non, parce que j'entends un pacte. Et j'entends, je dis parfois, je regarde même BFM, j'entends impactant, j'entends économiquement impactant. C'est pour ça que là j'ai utilisé déflagration ou trou, des choses plus simples. Quand je parle de confiscation, c'est réellement des... J'aime pas qu'on me vole mes mots.
Now these experiments started not on tape recorders, but on paper. In 1959, Brian Geisen said that writing is 50 years behind painting and applied the montage technique to words on a page. And this technique had already been used in painting at that time for 50 years. It was, in fact, kind of old hat in painting. Brian copied out phrases from newspapers and magazines, then took a scissors and cut these selections into pieces and rearranged the fragments at random. And these cut-up experiments appeared in Minutes to Go in 1959. When you experiment with cut-ups over a period of time, you find that some of the cut-ups and rearranged texts seem to refer to future events. I cut up an article on written by John Paul Getty and got, "It's a bad thing to sue your own father." This was a rearrangement and wasn't in the original text. And a year later, one of his sons did sue him. We had no explanation for this at the time, and just suggesting the press, when you cut into the present, the future leaks out.
La voix de William Burroughs sur l'origine du cut-up, hein, initié par Brian Geisen, et sur ses capacités, je ne sais pas, peut-être chamaniques, pour reprendre les termes de Benoît Porcher, puisqu'on va en parler tout de suite, avec l'idée qu'en tranchant dans le présent, on pourrait éventuellement révéler le futur. Ou du moins trouver une écriture de son temps capable de rattraper son retard sur la peinture. Donc de tout cela, il est question dans l'exposition que vous présentez chez vous, à la galerie Semioz, et dans laquelle Burroughs, le poète beat, donc fait œuvre de tout bois, c'est-à-dire tout support, chemise en carton, toile, planche de bois, porte avec un goût manifeste pour la lecture recto verso. Toute technique, hein, à l'encre, au crayon, à l'acrylique, à l'aérosol, même avec des... pinceaux champignons ou ventouses, un pacte de balles, donc des pochoirs grises, prêts, des collages, ça on s'en doutait, avec parfois des reprises, hein, et des répétitions de motifs, repris d'œuvres précédentes et réinsérés dans la suivante. Semioz, le nom de votre galerie, Benoît Porcher, est un terme de sémiologie qui voudrait dire la signification en fonction de son contexte, si j'ai bien révisé, comme par exemple lever la main dans une salle de classe ou lever la main pour appeler un taxi. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça signifierait pour vous, que d'exposer Burroughs.
C'est la chance pour un fan de pouvoir montrer une de ses idoles. En tout cas, c'est la position que j'essaye de tenir pour cette expo.
C'est quoi une position de fan ?
Mais c'est celui qui est adulte sans raison, juste avec de l'émotion, du savoir, mais pas que. Depuis que j'ai ouvert cette expo, je ne rencontre que des spécialistes. Alors, je suis bien content d'avoir pris cette position un peu naïve que celle du fan. Dans l'exposition, on montre des œuvres que certains qualifieraient de tardives. Elles correspondent à son isolement au Kansas, enfin isolement relatif. Hein. Après avoir quitté le bunker de New York, au début des années 80, il se retrouve dans le Kansas et il se met dans une petite maison en bois et il se met à peindre. Mais à peindre de façon démesurée, il ne fait que ça. Et tirer, évidemment, à la carabine. Et c'est ça que j'ai voulu montrer. Il invente tous les jours, il colle, il peint. Le travail ressemble à plein de choses, à rien. En tout cas, il invente en permanence. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est un monsieur qui a plus de 60 ans qui se met au travail, à la peinture. Et c'est comme s'il avait fantasmé cette peinture pendant 50 ans, 60 ans.
Parce que la pratique artistique, elle arrive assez tôt quand même. Dans les années 60 pour Burroughs, et peut-être même bien avant. Si on considère avec lui que, de toute façon, que regarde l'histoire, la peinture précède l'écriture, elle arriverait bien avant. Notamment au tout début dans les années 60, hein, par des séries de montages où il découpe dans les journaux, évidemment. Et puis au début des années 80, vient la peinture. Pour vous, donc je m'adresse aux fans et non pas aux spécialistes, en quoi ces œuvres-là que vous nous montrez dans la galerie pourraient nous renseigner sur son écriture ?
Ce sont des natures d'objets très différents. Effectivement, il y a des peintures peut-être de type calligraphique auxquelles on pourrait associer Brian Geising, évidemment, qui est un peu son pendant en littérature. C'est à la fois un écrivain, un peintre. Alors, peut-être maintenant, il est plus connu comme peintre. Donc il y a des allusions ou des citations. Il y a évidemment des choses qui pourraient résulter de son travail avec Rauschenberg. Et c'est quelqu'un qui a collaboré aussi avec d'autres artistes. Des estampes avec Rauschenberg assez incroyables, avec Philippe Taff, avec Kondo, avec Kissaring. Voilà. C'est quelqu'un qui a fréquenté peut-être tous les grands artistes plasticiens de son époque. Il a croisé, oui, on le sait, hein, David Hockney était très proche, Basquiat,
Bacon,
Warhol, ils sont innombrables.
Hein. Pourquoi est-ce qu'il aurait fallu attendre la mort de Brian Geising en 86 hein, pour pouvoir montrer son travail plastique
Je pense que c'était de la pudeur, c'était un amour et une estime immense de Burroughs. Peut-être une sorte de protection qui lui vouait. En tout cas, c'est vrai qu'il a montré son travail vraiment qu'à partir des années 90. Et en France, en l'occurrence, dans la galerie K, en 90, et en 92, dans une galerie à Marseille, à Porte-Avions, au même moment que l'exposition Poésie repeinterie, qui est peut-être un objet d'exposition mythique, un catalogue incroyable.
Parmi les œuvres que vous montrez, Benoît Porchet, il y a quelques fameuses shotgun paintings, hein, c'est-à-dire des peintures explosées par partir sur des plaques de contreplaqué, donc à regarder, à lire recto verso, en tout cas, par leur trou. Des années après les tirs de Niki de Saint-Phalme.
Certainement, parce que c'est les années 50 et, pour Niki de Saint-Phalme, je crois.
Oui.
Et je crois que Burroughs a commencé en 82.
Il en reste un petit film, même, d'ailleurs, où on le voit tirer
sur la peinture. Il y a quand même plus d'images où on ne le voit pas tirer. Hein.
Est-ce qu'il devrait quelque chose, malgré tout, à ces performances-là de Niki de Saint-Phalme, ou est-ce qu'on en est loin, comme le suggère Jean-Jacques Lebel hein.
Moi, je suis sûr que c'est très lié. Je suis absolument persuadé qu'ils se sont rencontrés. Je cherche les preuves. Je vais réussir par les trouver. De toute façon, c'est pas la question de qui a fait quoi en premier. Je pense que c'est pas le même geste, ça n'a pas le même sens. C'est pas la même décennie, donc.
Quel sens ça prend chez Burroughs ?
J'allais presque dire celui du loisir, mais on n'en est pas
oui,
loin.
Oui, on sait l'importance du tir et des armes à feu.
C'était aussi quelque chose de social. Donc les gens venaient avec lui tirer l'après-midi. Si on voulait voir William Burroughs, il fallait l'accompagner pour tirer à la carabine, hein, la chevrotine d'ailleurs. Mais il avait une fascination par de ce geste, donc de tirer. Et après, il contemplait ses tableaux. Il passait des heures à contempler ses tableaux, hein, autant ses calligraphies que ses peintures. Et on parlait de chamanisme, de peinture magique. Il regardait les impacts comme des gestes divinatoires, peut-être des objets de contemplation et peut-être d'oracle même.
C'est vous qui parlez de chamanisme.
C'est pas ça, on est quelques-uns. Enfin, en tout cas, les gens qui l'ont fréquenté de près ont tous, en tout cas, me rapportent tous ce genre d'attitude qu'il avait avec sa peinture, qui était une peinture presque divinatoire en fait.
Guillaume Desanges, vous connaissez le travail plastique de Burroughs?
Très mal. Je vais réparer ses manques. Niki de Saint-Phalle, en revanche, cette histoire-là, je la connais un peu mieux, parce que c'est l'histoire de la performance sur laquelle j'avais travaillé. Je me demandais, c'est une question, hein, je me demandais si le plus important était l'impact final que la vision de l'artiste en train de mettre en joue aussi. Parce que les œuvres de Niki de Saint-Phalle, je suis presque plus sensible à la photographie de Niki de Saint-Phalle en train de tirer que, en fait, même le résultat lui-même. C'est la trajectoire,
ça,
le portrait de l'artiste.
Pardon? Ça, c'est ton goût pour le minimalisme.
Oui, mais c'est aussi.
Benoît Porcher, j'imagine que vous êtes beaucoup plus intéressé par l'objet.
Ouais, moi, je trouve les formes
impactées.
Ouais, mais j'aime les deux, en fait. C'est vrai que cette femme est incroyable, cette figure incroyable, en train d'armer sur ses peintures blanches. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Alors, c'est pas tout à fait le même geste, hein, parce que Burroughs faisait des vraies peintures et il tirait ensuite dessus. Ce qui est pas tout à fait le même geste de Niki, où il y avait des couleurs
Où elle
qui
crevait des
voilà, peaux de peinture.
Il y en a quelques-uns chez Burroughs, mais c'est plutôt des tirs sur des tableaux.
Merci à tous les trois. Guillaume Merci. Desanges, Manuel Joseph, Benoît Porcher. C'est la fin de cette émission, ou presque. Je vous laisse la prolonger entre vous et sans moi. Alors, bonne nuit et bon été à vous.
Fais sortir, monsieur. Descendez, s'il vous plaît.
Il y a un truc tout à l'heure, Manuel.
Non, mais par rapport à Niki de Saint-Phalle, mais c'est drôle. Je crois que William Burroughs et son intention est pas...
Ah, c'est pas comique, non, ça, on est d'accord.
Non.
Mais c'est un personnage noir.
Ça n'empêche pas d'admirer Niki de Saint-Phalle, mais j'ai une petite préférence quand même pour Burroughs.
D'autant plus que c'est daté des 50. Et d'ailleurs, William était certainement à Paris à ce moment-là. Je pense que l'atelier était proche du Bitotal.
Donc c'est les preuves que tu cherches.
C'est une des pistes, en tout cas.
Mais comment on trouve des preuves maintenant?
Il faut chercher des photos, des archives, des lettres. Je suis sûr que j'ai trouvé.
Bon courage. Mais je ne sais pas comment on peut trouver ça.
Et ce qui est génial en faisant cette expo, c'est que tous les gens qui ont frôlé, croisé le regard, ramassé un Kleenex par terre de William Burroughs viennent me le raconter.
Oui.
Donc c'est absolument incroyable. J'ai la chance d'être le réceptacle d'anecdotes absolument incroyables que j'aurais voulu publier. Ça sera pour le prochain. Mais ce qui est assez étrange, c'est d'ailleurs que l'expo n'est pas... je pense que c'est une expo assez lumineuse. J'espère pas avoir dévoyé le boulot, parce que ce serait dommage.
Personne lumineuse.
Mais c'est contrasté.
Ce côté sombre et tout. Il a une longévité.
83 ans.
Hein. Oui, et lumineuse. On dit pas un prophète. Je me permets prophète.
En tout cas, pour ce Burroughs, qui est drôle, c'est qu'il est entre le demi-dieu et effectivement le prophète pour toute une communauté, en tout cas.
En tout cas, Burroughs, je pense qu'à chaque génération, c'est pareil. Et moi, je suis pas passé par là. Bon, mais je sais que des amis, un certain type de personnes, en plus, pas tout le monde, mais un certain type de personnes, au moment, on va dire, post-adolescence, sont passés à travers Burroughs, ont lu que ça pendant un certain temps. Et après, c'est vrai que c'est devenu, quand Manuel dit prophète, en tout cas, ça a modifié les trajectoires, je pense. Et puis, jamais trop tard.
Il y a Surveiller et Punir, c'est Foucault, mais il y a Burroughs aussi qui est assez étonnant.
Oui.
Mais je suis paranoïaque, alors c'est tout.
Mais pourquoi tu disais tout à l'heure que tu dis j'ai lu Burroughs, donc je suis paranoïaque? Ou t'as lu Burroughs parce que t'étais paranoïaque?
Je sais pas.
C'est documenté.
Il m'a conforté.
Poésie et ainsi de suite, ce sera à la rentrée en septembre. Merci à Lucie Spindler pour la préparation et pour son efficacité. Sensible tout au long de l'année, à Théo Gomard pour la technique et à François Connac pour la réalisation. Merci Guillaume Desanges, Manuel Joseph et Benoît Porcher. Vous trouverez toutes les actualités de nos invités du soir sur le site de l'émission, à réécouter ou podcaster sur franceculture.fr. Mais tout de suite, c'est minuit et c'est les nuits de France Culture par Philippe Garbi.